c'est là où ma vie d'avant s'est arrêtée.
Je suis incapable de te dire parce que j'étais tellement traumatisée que je n'ai aucun souvenir.
J'avais pas encore cerné son nouveau lui, le nouveau père avec qui j'avais affaire en face.
Plus de 70 enfants ont perdu au moins un parent le 13 novembre 2015, tués par les terroristes et plus tard emportés par leur traumatisme. Nous avons rencontré des orphelins et des familles d'orphelins, mère, grand-mère, qui ont élevé, accompagné seuls ces enfants. Que pouvons-nous raconter de plus, de nouveau de censé 10 ans plus tard, 10 ans après les attentats du 13 novembre 2015 ? Écoutez, des témoignages est une évidence. Lesquels l'on n'a pas entendu, lesquels resteront, lesquels peuvent et veulent en parler. Nous vous proposons d'écouter les orphelins du 13 novembre en 3 épisodes. Nous entendrons Maxime. Son père, Frédéric, était au Bataclan, caché pendant plusieurs heures, allongé dans la fosse. Il en ressort traumatisé, il ne s'en est jamais remis. Daniel a perdu sa fille, elle a accueilli, élevé son petit-fils Samy chez elle. Caroline élève son fils, sa fille, seuls 2 et 6 ans à l'époque, sans leur père abattu au Bataclan. Dans ce premier épisode, le choc d'abord, le traumatisme, le stress post-traumatique, les insomnies, les amnésies, les peurs. Puis, dans les épisodes suivants, la reconstruction ou au moins la tentative de reconstruction. Et enfin, 3e épisode aujourd'hui, vivre avec le traumatisme, vivre sans son parent. Et quel héritage reste-t-il ? Vous écoutez Les Orphelins du 13 novembre, premier épisode.
Le 13 novembre, donc j'étais à la maison avec les enfants. Alors, je m'appelle Caroline Jolivet, j'ai 46 ans. Je suis sophrologue hypnothérapeute et je suis maman de deux super enfants, Mila et Tom. Mon mari, Christophe, on s'était organisé pour que je rentre un peu plus tôt pour qu'il puisse partir au concert ce soir-là. On avait une place en plus et jusqu'au dernier moment, il aurait voulu que je vienne, mais on avait beaucoup d'autres choses ce week-end-là, dont un autre concert, un autre spectacle. Enfin, on était des habitués des sorties et des concerts. Et puis, on avait vu le groupe en juin d'avant, donc c'était pas parmi non plus les groupes qu'on pouvait ne pas manquer. Donc, je lui ai souhaité une bonne soirée et voilà, il n'est pas revenu.
Christophe se rend au Bataclan, il a 39 ans, il va écouter les Eagles of Death Metal. Dans la salle, il y a aussi Frédéric Calizot. C'est le père de Maxime, il a 14 ans, il rentre lui d'une sortie scolaire.
On fait un détour et on s'arrête, je ne saurais plus trop décrire où dans Paris, mais on s'arrête de manière assez urgente pendant peut-être un quart d'heure, 30 minutes, sans trop se poser de questions. On voit quand même la tête des profs s'affole un peu. Et on comprend sur le coup quand même qu'il y a quelque chose qui cloche. Je sais pas, j'ai ressenti un peu l'inquiétude, le questionnement derrière. Très vite, les infos pullulent à une vitesse phénoménale, quoi. C'est la vitesse de la lumière, généralement ce genre d'infos. Explosion, suspicion d'attentat, etc.
Je l'ai appris par une dépêche sur mon téléphone. C'est là où ma vie d'avant s'est arrêtée. J'ai basculé dans quelque chose d'autre. Et j'ai allumé, comme tout le monde, j'ai allumé BFM, qui fait partie de l'histoire, en fait, en quelque sorte. Quelque part, c'est particulier aussi de venir ici aujourd'hui.
Et c'est à ce moment-là que je tilte. Mon père est à une salle de concert sur Paris, où, je ne sais pas. Et là, on voit Eagle of Death Metal, et même si je ne me rappelle pas le nom, je me dis, c'est carrément un truc que pourrait écouter mon père, en fait.
Je reconnaissais plus mes sensations physiques. Alors maintenant, je sais ce qui s'est passé techniquement, entre guillemets. C'est-à-dire que j'étais dissociée, j'étais sidérée, j'étais. Et c'est très particulier les sensations qu'on peut ressentir. J'ai l'impression de perdre complètement pied. Et puis, une sensation aussi de vouloir aller le rejoindre. C'est-à-dire vouloir tout faire pour être auprès de lui et en même temps tout faire pour être avec les enfants. Enfin, c'était impossible en fait. Et les enfants dormaient. Et je ne savais pas où il était. C'est un chaos absolument total dans ma tête, qui est resté longtemps, ce chaos.
Il y a un truc au fond de moi qui me dit « et c'est peut-être pas ça, tu sais pas, et c'est complètement ça ». Donc j'ai un peu eu les chocottes quand même, sur le coup. J'ai eu un réflexe après qu'il a qualifié de très intelligent de ne pas l'appeler. Parce que je me suis dit, pour la blague en fait, à mon meilleur copain, non mais imagine, il se fait tirer dessus. Si en plus c'est son téléphone qui sonne, cible facile quoi. Tu le connais, il est grand, il fait 1m93. Et donc je l'avais pas appelé en me disant, bon, je vais paniquer tout seul, mais il me rappellera quand il sera ok. Peut-être que là, il est en train de faire le mort. En fait, c'est très con. Je pense que je me disais déjà ça pour l'accepter quoi, en quelque sorte. Et donc après peut-être... Ouais, 45 minutes, le car reprend. On rentre finalement sans encombre, juste avec une heure et demie de retard, parce que du coup, il y avait des bouchons sur le périph. On nous lâche un peu comme ça, rôde dans la nature, ça y est, c'est bon, fin de la sortie, rentrez chez vous et faites attention surtout. Et là, il est peut-être 22h30, je crois, plus ou moins. Je rentre, c'est quasiment le premier sujet qu'on aborde à la maison de... Ah, tu t'as vu, il y a eu des... Ouais, oui. Fred, t'es pas un concert ? Si, mais je sais pas trop. Et je détourne un peu la question. C'est ma maman qui me demande ça, c'est mon frère aussi qui en parle, on en parle. Tout de suite, je pars m'exiler, je me fais ermite dans ma chambre, je re-regarde sur le net, et là, je vois en effet attentats, les trucs et toutes les infos quoi, qui sont confirmées en fait. Il y a des moments où j'ai besoin constant d'avoir des informations. Je me gratte les veines quoi, de pas avoir de nouvelles. Et puis parfois, au contraire, je me coupe complètement, je lance une vidéo, je joue un jeu, je fais n'importe quoi qui juste occupe le cerveau pour pas avoir à y penser. Et puis ensuite ça revient et ça me reprend et je me dis mais attends, si je suis pas en train de chercher, je me tourne les pouces, c'est pas possible, est-ce qu'il y a d'autres nouvelles infos? Il y a beaucoup de tristesse de m'être dit pendant un certain temps quand même, j'ai plus de papa, je n'ai pas de nouvelles de lui. Et le dernier souvenir que j'ai de lui, c'était la semaine dernière avec les devoirs où j'ai pleuré parce que j'étais triste, parce qu'on s'est fâché, et j'ai pas envie que ce soit ça notre dernier truc. J'ai encore plein de choses à lui dire, j'ai plein de choses à lui partager, et ainsi de suite, c'est rebelote, jusqu'à avoir un message finalement pour savoir qu'il a envie. Vers 2-3 heures, juste un message en gros, pour me dire qu'il était en vie, qu'il avait rien physiquement, pas blessé, ton papa en vie en gros, plus ou moins.
Le père de Maxime a réussi à s'en sortir vivant. Il est resté caché, allongé dans la fosse du Bataclan pendant plusieurs heures, épuisé et soulagé. Maxime s'endort d'un coup.
On n'a pas dormi une seule seconde en fait. On était quatre à la maison, dont mes parents. On a passé toute la nuit à appeler les hôpitaux. De toute façon, la focale, elle est tout de suite sur les enfants. Il n'y a pas de... Effectivement, l'obsession, c'était qu'est-ce que je vais dire. Parce qu'il n'était pas question que je monte. Donc je me suis dit que ce qui était juste, c'était de dire qu'il était à l'hôpital. Parce que, en fait, le fait qu'il n'appelle pas, c'était forcément que c'était... très grave, et j'espérais qu'il soit dans le coma. Sinon, c'était qu'il était mort. Je sais pas exactement... Enfin, j'ai aucune idée de ce qui se passe, et je... C'est moi, l'adulte, il faut que je me démerde. Il faut que je trouve. Il faut trouver. Il n'y a pas d'hésitation, il faut trouver quelque chose à dire. Donc j'ai dit ça. J'ai dit que papa, il était à l'hôpital, mais que malheureusement, on pouvait pas le joindre et on pouvait pas y aller. Malheureusement, ça a duré tout le week-end, plus le lundi, à dire ça, et au fur et à mesure de dire que c'était très grave.
C'était mon anniversaire. Mes enfants avaient passé la journée avec moi parce qu'ils ne pouvaient pas être là le soir. Et puis ils ont dit, tu sais, on n'est pas là ce soir, on est invités avec des amis. Ce soir-là, moi j'étais tranquillement ici, hein, parce qu'ils avaient passé la journée avec moi. Donc j'étais avec mon mari, on passait une bonne soirée tranquille. Et puis, à minuit, un coup de téléphone. Vous vous appelez comment ? Je dis, Madame Dalloz. Vous avez un de vos enfants qui vient d'être tué. Je dis, pardon, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Et je dis, attendez, vous vous trompez de nom, c'est pas possible. Si, vous appelez bien Madame Dalloz, j'ai les papiers, là, vous avez Marie-Aimée Dalloz qui a été tuée avec son mari. C'est pas possible. Donc j'ai raccroché, les larmes sont arrivées, mon mari se réveille, il me dit qu'est-ce qui se passe ? Je dis écoute, voilà, notre fille vient d'être assassinée au Bataclan.
La fille de Daniel, Marie-Aimée, n'était pas au Bataclan, elle était sur la terrasse du bar La Belle Équipe, rue de Charonne, c'est dans le 11e arrondissement de Paris. Daniel a complètement oublié cette journée du 13 novembre et nous y reviendrons. Et pour cette raison, et aussi pour être rassurée, elle a invité Christiane Graziani, son amie, à participer à notre enregistrement.
Je prends la parole.
Vas-y.
Je suis venue assister à mon ami Daniel Dalloz parce que hier nous avons parlé de votre rendez-vous. Et je dois dire qu'elle était très mal à l'idée de vous parler. Je me suis dit que je pourrais être d'un secours.
Pour m'aider, je ne serai pas toute seule.
Le fils de sa fille était tout seul chez lui et a tout vu à la télévision, puisque c'était filmé.
Marie-Aimée était donc sur la terrasse de La Belle Équipe pour fêter l'anniversaire d'une amie. Elle est abattue avec son compagnon, avec qui elle élevait son fils 13 ans à l'époque. Sur cette terrasse est également tuée Justine, la marraine de son fils.
Elle n'a jamais pu m'en parler, parce qu'il s'effondre dès qu'il a... Et sa mère, il aimait profondément sa mère et ça a été terrible pour lui. Terrible, terrible. Comment c'est possible autrement ?
C'est donc terrible. À partir du moment où tu l'as eu, c'est lui qui est revenu ? Il est revenu tout seul ?
Oui.
C'est pas ton mari qui est allé le chercher?
Non, non.
Il a traversé Paris le soir du 13 novembre.
En vélo, pour venir ici. Oui. Et après, il ne m'a plus jamais quitté. Il pleurait tout le temps. Il me prenait dans ses bras et on pleurait tous les deux. Et ça a été vraiment quelque chose d'épouvantable. Épouvantable.
Et de là, ça a été... deux jours et demi, enfin jusqu'au lundi soir, donc on était vendredi. Et donc jusqu'au lundi soir, en fait, je n'ai pas eu de nouvelles et j'ai appelé les hôpitaux. Pendant ce très long week-end horrible, où je savais que si... De toute façon, s'il appelait pas, c'était forcément très grave. Donc c'était soit qu'il était déjà mort, soit il était dans le coma, mais... demander aux hôpitaux s'il y a un grand brin tatoué, c'était pas le seul tatoué du cancer. Donc dans ce chaos, il y a eu une cellule de crise qui était là heureusement le lendemain, le 14, à l'école militaire. Si vous voulez, j'avais l'impression d'être dans un film. C'était tellement bizarre, c'était tellement étrange ce moment, avec beaucoup de silence dans cette cellule de crise et puis des gens qui pleuraient et puis un silence très lourd. Enfin, on me conduit vers un psychiatre, une salle un petit peu à part, il fallait descendre des escaliers. Et là, ce psychiatre qui semble maîtriser la situation dans un parfait chaos, lui, on dirait qu'il sait ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une bouée quoi, qui est là. On se noie, mais là, il y a une bouée. Et donc, en fait, il m'a prescrit des anxiolytiques et des choses pour supporter en fait, le moment. Et puis, il m'a fait un arrêt de travail. Et moi, je dis, mais c'est pas possible, en fait. Je peux pas. Bah non, en fait, j'ai plein de choses à faire. Je peux pas. Je peux pas être absente. En fait, on se rend absolument pas compte. Il y a quelque chose qui est insensé, on se rend pas compte. J'étais assez calme. Je ressentais un chaos, mais j'étais très calme de l'extérieur. Ce qui a frappé certaines personnes autour de moi.
Elle est allée à un lieu où ils centralisaient tout, qui était aux Invalides.
Mais tu vois, tu te souviens mieux de moi.
Ouais. Vous y êtes allée comment ? Vous êtes allée en taxi ? Vous êtes allée...
On est allée en taxi. Et
comment c'était ? Est-ce que tu peux décrire un peu qui y avait ? Qu'est-ce que les gens disaient si...
Ah non, je suis incapable de te dire parce que j'étais tellement traumatisée que je n'ai aucun souvenir. On est allé en taxi, Jean-Claude et moi, et c'était barré. Et il a fallu s'arrêter là. Et il a fallu donner notre identité pour savoir qu'on faisait partie de la famille qui était touchée. Et... c'est Jean-Claude qui a parlé. Moi, j'étais tellement assommée que je suis incapable de te dire parce que j'étais tellement traumatisée que je n'ai aucun souvenir.
c'était extrêmement compliqué puisque je l'ai appris au téléphone, mais on m'a pas appelé. C'est parce que j'ai appelé et on m'a dit il n'y a plus de victimes non identifiées, enfin de victimes vivantes, pardon, blessées non identifiées, il n'y en avait plus. Donc je ne savais toujours pas. Le lendemain, je retourne à l'école militaire et là, trois policiers différents qui m'ont à chaque fois dit si, il reste une personne. Ensuite, non, je suis désolée, c'est faux, il n'y a plus personne. Si, il reste une personne, une autre personne. Moi, mon cerveau, il faisait comme ça. Hein. C'est quelque chose qui a été long à surmonter, en fait, à réparer. Et puis, j'ai vraiment su officiellement le 16 au soir, donc c'était 3 jours en fait, où là en fait il était à l'institut médico-légal. Donc moi je l'ai revu que le lendemain, le 17, et je l'ai vu à travers une vitre pendant 5 minutes. En fait, mon obsession dès la cellule de crise, c'était comment je fais pour les enfants. On verra plus tard, mais qu'est-ce que je dis, comment je fais. Moi j'ai pas le mode d'emploi. Déjà que quand on est jeune maman, les enfants, ils avaient 2 et 6 ans. Tous les parents qui ont des enfants de cet âge-là, il y a des moments où on ne sait pas comment il faut faire et on galère, on apprend un peu au fur et à mesure, quoi. Donc là, dans une situation comme ça, il fallait que je trouve une solution. Il fallait que je trouve une solution. Donc j'appelais des psychologues, je demandais à voir des pédopsies. Mais en fait, personne n'avait une réponse. Il n'y a pas de réponse toute faite là-dessus. Et comme on l'annonce, ça, c'était un petit peu... J'ai pu avoir quand même un petit peu d'aide dans le sens où... Et ça correspondait à ce que je pensais. C'est-à-dire, il ne faut pas mentir. Je savais qu'il ne fallait pas dire des phrases comme « il est dans le ciel » ou des choses comme ça, où ils allaient... chercher, fallait dire les mots. J'ai jamais menti, mais j'ai adapté en fonction de l'âge. C'est un méchant. Bon, j'ai utilisé le mot méchant. Après, on peut discuter sur. Mais bon, bref, de toute façon, j'ai fait comme je pouvais. J'ai dit, il y a un méchant. Un méchant a tué papa.
Là, c'est la grosse période de flou pendant les 2 jours parce que c'était le vendredi et samedi, dimanche, un peu bizarre. Initialement, j'étais censé être en week-end avec lui où on devait se voir et je me rappelle qu'on n'a pas coupé contact, mais il a posé les choses quand même assez clairement. On ne va pas se voir pendant un certain temps parce que je ne suis pas apte à prendre la voiture et de voir des gens, mais ton papa va bien et... Profite en gros de ta vie sur Versailles avec ta mère et ta famille. Il y a beaucoup de peur, évidemment. Il y a un peu de culpabilité de me dire j'aurais pu ne pas aller à ma sortie et faire cette soirée avec lui et être là-dedans avec lui. Et je pense qu'il y a toujours une culpabilité, même une infime culpabilité, que ça revienne. Et parfois, je me dis presque que j'aimerais bien pouvoir le revivre pour pouvoir être un peu plus avec lui. Soit y aller ou soit vivre mon Bataclan à moi et pouvoir me dire je l'ai fait avec toi ou cette fois-ci j'ai pu t'aider ou cette fois-ci j'ai pu aider des gens donc je t'ai aidé indirectement. Et il y avait un peu ça aussi à l'époque de m'être dit ah mince je l'ai laissé tout seul.
En fait, ce qui est très étrange, c'est que les enfants ils expriment la même culpabilité, la même envie d'avoir été là pour empêcher les choses que nous adultes. Pourquoi je l'ai pas empêché de sortir de l'appartement? J'aurais dû pouvoir le défendre. Même du haut de leurs 2 et 6 ans, ils avaient ce genre de réflexion. Et en fait, j'étais assez stupéfaite de me dire bah, moi, en tant qu'adulte, j'étais rongée par la culpabilité d'avoir rien pu faire.
Et quand je le revois, on va à un restaurant japonais pas loin de là où on est à Versailles. Et c'était très succinct, c'était très court. C'était pas, mais presque, juste un rendez-vous de remise à niveau. Pour se dire, voilà, t'as vu ton père en vrai, tu sais qu'il a envie pour de vrai physiquement. Il était trop dans son monde. Je le dis souvent, mais je pense que c'était vraiment un cas clinique de mort-vivant, en fait. Il était pas réceptif. Il avait peur de tout et de rien. Donc il y avait cet aspect, mon père est vivant, il respire, il est là. Pas beaucoup de sourires, pas beaucoup de rires. J'avais pas encore cerné son nouveau lui. Le nouveau père avec qui j'avais affaire en face. J'avais plein de questions, quoi. Finalement, de qu'est-ce qui s'était passé. J'ai envie de le harceler de questions, mais comment ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'as fait?
Nombre de gens qui ensuite vous disent, bah, de toute façon, à 2 ans, il n'a pas compris. Enfin, il comprend à la mesure de ce qu'il peut comprendre. Mais quand votre fils de 2 ans, il vous demande à quoi ressemble une balle et comment elle traverse la peau, à 2 ans et demi, ça fait bizarre quand même d'avoir ce genre de demande. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants, ils comprennent beaucoup plus que ce qu'on pense. Et c'est très déstabilisant. Et non seulement ils avaient des questions assez précises, alors ma fille, elle m'avait dit, j'espère que, au départ, elle m'a dit, j'espère que papa s'est pas cassé la jambe. Parce que j'ai dit, il a eu un accident, enfin, il y a eu quelque chose de grave, et j'espère qu'il s'est pas cassé la jambe.
En fait, on en a parlé très brièvement au collège, mais c'était bon. Est-ce qu'il y a des gens qui ont connu des gens qui y étaient? Finalement, j'ai répondu non. Franchement, je pense que j'avais trop honte de dire « Ouais, mon papa y était », parce que j'aimais pas du tout la lumière sur moi à ce moment-là, les projecteurs, je voulais pas attirer l'attention.
À un moment, il a fallu que les enfants y retournent à l'école et à la crèche. Voilà, les enfants, ils ont leur vie. Tout était compliqué, en fait, après ça, pendant des années. Déjà, ils voulaient plus dormir. Ils n'arrivaient plus à dormir, puisqu'ils ont perdu leur père pendant qu'ils dormaient. Donc la nuit, c'était... Donc les nuits étaient, ont été infernales, et c'est pour ça que je me suis formée au départ à la sophrologie. Il fallait que je trouve des solutions, c'était impossible en fait. Les rendez-vous psy, c'est un soutien énorme. Ça donne pas le mode d'emploi sur mais comment je fais quand je dors pas, comment.
Vous vous souvenez des obsèques de votre fille?
Ah ben oui, ça, les obsèques, je m'en souviens. L'église était pleine. Saint-Germain-des-Prés, c'est là où on a fait toutes les grandes... l'assassinat de notre fille et son enterrement, on l'a fait. C'était à Saint-Germain-des-Prés, c'était plein, plein, plein. Il y avait des gens plein la rue aussi. Et avec mon mari, nous avions préparé un petit speech. Et quand mon petit-fils, qui avait quel âge alors à ce moment-là? Il avait 13-14 ans.
Ouais.
Il a vu qu'on préparait quelque chose, il a dit « Moi aussi, je veux dire quelque chose ». Alors on lui a dit, bah, tu fais comme tu veux. Il dit, mais je ne vais pas vous le dire parce que vous allez pleurer si je vous le dis. Alors à l'église, on a parlé, mon mari et moi. C'est mon mari qui a parlé, moi j'étais incapable. Et puis Samy est arrivé et il a dit un texte, mais bouleversant. L'église entière pleurait. C'était incroyable. Il était d'une sincérité, d'une simplicité, avec une émotion et fantastique. Et tout le monde, toute l'église pleurait. Et après, en face de l'église, il y a une grande salle de réunion et où on est allé et tout le monde est arrivé. On y est resté, je ne sais pas, 2-3 heures parce que tout le monde voulait nous parler, nous embrasser. Et... Bon, ça a été une journée vraiment terrible, terrible. Bon, ça c'est un détail, pour moi pas tellement, mais c'est l'État qui s'est chargé de l'enterrement. Et ils l'ont enterré à Montparnasse. La tombe est épouvantable, parce qu'ils ont mis une espèce de je sais pas quoi. C'est moche quoi, c'est moche.
Au bout d'un bon 6 mois, il a commencé à s'ouvrir doucement, a commencé à parler un peu de ce qu'il faisait, de ce qu'il dessinait, de ce qui se tramait dans sa tête. Et là, on a réussi à reconnecter à ce moment-là, parce que moi, j'ai senti que ça y est, il rouvrait doucement les portes de la paternité et du lien humain avec les autres. La première conversation, dans les détails et avec les grands traits, je pourrais pas honnêtement la reciter, ou en tout cas la remémorer. Je sais même pas quand est-ce que c'était. C'est pas venu de manière forcée, mais ça a été posé. On s'est assis tous les deux, et il m'a dit, faut que je te parle de ça, en gros. C'est un peu... Bon, là, c'est nécessaire qu'on en parle. Ce genre de discussion où on te fait t'asseoir sur un canapé, et puis il lève le bras, et puis il te rapproche de toi, et il prend une respiration, et là, ton cerveau te dit, ok, là, c'est une conversation qui est importante. Là, c'est une conversation qu'il faut pas louper. Je crois que la première chose qu'il m'a dite, c'est est-ce que t'as une question ou est-ce que t'as des questions par rapport à ce que j'ai vécu ? Et en fait, j'en avais plein et rien. Donc j'étais complètement bouche cousue, quoi. Et je lui ai pas posé de questions. Et donc il m'a parlé, ton père s'est retrouvé dans une salle, je me suis retrouvé avec une dame qui m'a peut-être sauvé la vie, qui s'appelle un tel, qui avait tel âge. Moi j'avais rien, mais elle s'est pris une balle dans la fesse. Ton papa a fait la blague du pangolin qui respirait par le cul, pour la faire rigoler. Et puis une fois qu'on a détendu un peu l'ambiance, ça a descente dans la dure réalité. Ton papa s'est allongé 3 ans dans une mare de sang pour faire le mort. Il s'en est sorti en vie. Ton papa est un peu bouleversé. Ton papa dort pas très bien. Ton papa si, etc. Mon père a pas mal culpabilisé sur pourquoi est-ce que lui en vit. Pourquoi est-ce que les autres ne le sont pas. Pourquoi est-ce que lui, il a pas été capable d'aider des gens. Il disait souvent qu'il aurait bien voulu être le Bruce Willis qui ressort avec les deux victimes ou les deux blessés sur ses deux épaules et à les soulever et à dire à la police, bon, la prochaine fois vous me payez quoi. Mais il a pas été ça et il s'en est quand même beaucoup voulu. Et aussi, s'il y a des gens qui méritent la mort entre guillemets aussi facilement ou qui ont eu la mort aussi facilement, pourquoi est-ce que moi j'ai la vie aussi facilement ? Il me disait souvent qu'il devenait meilleur ami avec la mort et que la faucheuse, c'était sa meilleure copine et qu'en fait, on regardait pas mal les Batman et il y a pas mal cette réflexion-là aussi de « je n'ai pas peur de la mort, j'ai peur de rien » et c'est là toute la force de Batman. Faut pas que j'en ai peur, il faut que je garde en tête que même si elle peut venir demain, c'est justement parce qu'elle peut venir demain que je dois la garder proche pour donner un sens à ma journée d'aujourd'hui et me dire que la journée que je vais vivre, ça va être un truc dont je vais être fier ce soir. Et ça, c'est un sujet dont on a pas mal parlé.
Maxime et son père ne se parlent pas beaucoup, mais la musique les unit. Il nous a proposé d'ailleurs de se retrouver pour démarrer notre enregistrement rue de Clichy, près de la place Pigalle, dans le 9e arrondissement de Paris, dans un magasin de musique.
Donc on est de manière plutôt logique dans un magasin de guitares qui est là où j'ai acheté probablement mes premières guitares. Beaucoup de souvenirs parce que j'ai quand même joué mes premiers trucs ici avec mon père et c'était chouette. C'est un petit paradis aussi parce que toutes les guitares c'est un peu des trucs qui m'attirent de manière générale. Voilà. Tu fais pas mal de lèche-vitrine en regarde.
C'est quoi là, les guitares qui t'attirent par exemple?
Ah, moi je suis plutôt côté PRS, c'est là-bas. Quoi? C'est une marque, enfin c'est une marque de guitare, ouais, américaine. Qui était en gros ma première guitare de rêve. Un jour je suis rentré dans le magasin, il y avait, c'était plus ou moins par là aussi, une PRS marque Tremonti Signature d'un guitariste d'un groupe que j'adore qui s'appelle Alter Bridge. Et j'ai vu la couleur, le plus petit trémolo. Et je m'en rappelle avoir fait, je veux celle-là quoi, c'est cette guitare-là qu'il me faut. Et je l'ai achetée à mes 19 ans, c'est mon père qui me l'avait achetée.
Ici du coup?
Ouais, il m'avait fait un joli petit cadeau. J'avais ma première guitare de rêve qui était quoi, en gros l'équivalent d'une première vraie guitare. Ouais. Mais là c'était le niveau au-dessus, en gros il me disait ça c'est une vraie guitare, faut pas déconner avec ça. Faut faire n'importe quoi. Il faut que je fasse de la musique, ça me détend. C'est un peu un havre de paix. Ça me ramène aussi à des souvenirs qui sont chouettes. Et si je joue pas de guitare, j'écoute des guitares ou je regarde des guitares. De toute façon, elles sont toujours à côté de moi dans ma chambre. J'en ai un petit nombre, donc je suis toujours entouré, quoi. En fait, j'ai toujours écouté pas mal de rock, de blues. Enfin, surtout mon père qui mettait ça. Il avait des grosses enceintes qui sont des Celestions, des vieilles, vraiment vieilles enceintes en bois. Et il y avait toujours de la musique qui tournait quand on était petit.
Et ce quartier-là, c'est le quartier où t'emmenais ton père, du coup, ouais. Et vous baladiez de magasin de musique en magasin de musique.
Ouais, voilà, exactement. Première étape, beaucoup de lèche-vitrine, beaucoup de reluquages de guitare. Pas mal de discussions aussi de guitare, de tout en fait, que ce soit de musique à... J'ai vu un tel jouer en live récemment avec cette gratte-là, tu devrais essayer, waouh. On sortait le chien, on est déjà passé par ici pour sortir un petit chien qu'on avait, qu'ils appelaient Spitz, qui était un bouvier d'Entelbourg. Et donc on avait des discussions. Alors après, les discussions père-fils qu'on avait, c'était des discussions père-fils que les gens n'ont pas forcément, tout le monde, parce que finalement un peu impacté par ce que lui avait vécu. Et en fait, lui, peut-être voyait un moyen de me raconter ce qu'il vivait et de comment est-ce qu'il vivait la vie après ce qu'il avait vécu. Et moi, ça me permettait de le comprendre et de pouvoir aussi partager ce que j'avais sur le cœur sans forcément pouvoir le dire directement, quoi. Et en même temps, c'était compliqué parce que c'est son fils, en tout cas pour moi, et qu'on a toujours eu une certaine pudeur sur les sentiments, sur ce qu'on ressent, et qu'on a toujours été un peu maladroit, ou en tout cas que lui a toujours été très 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 maladroit sur son éducation. J'ai toujours eu du mal à poser des questions avec les gens, parce que en vrai, j'ai grandi un peu comme ça, et j'ai toujours eu du mal à demander aux gens « ça va ?» ou « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» J'ai un peu eu ce blocage là-dessus. Peut-être que ça s'est... accru entre guillemets avec ces événements-là et que ça m'a encore moins donné envie de parler de ce genre de choses.
Bien après le 13 novembre, le traumatisme ne se résorbe pas, au contraire.
Et puis mon mari, il en est mort. Dieu sait, on avait eu 55 ans d'un bonheur formidable et puis voilà. Il m'a dit je vais mourir et puis je vais mourir avec ton sourire. Je dis, c'est un peu difficile que tu me demandes quand même. Je dis, ça va, ta perfusion, tu veux pas? Il me dit, oui, augmente-la un petit peu. Alors j'ai augmenté, puis je me suis penchée vers lui en lui souriant, et il a profité de ce sourire pour mourir. Et je lui parle toute la journée. Il m'a jamais quitté.
À 16h30, j'étais en train de jouer un jeu vidéo avec deux copains, Apex Legends, et sa compagne. Marianne qui m'appelle une fois, je calcule pas parce que je suis concentré. Et puis la seconde fois, je me dis que y a quand même un truc qui cloche, c'est pas net. Mais je me dis que voilà, il y a eu un accident sur la route. Je décroche, je l'entends à moitié en pleurs. Maxime, t'es assis? Je dis oui, je suis assis, fonce. T'as un truc à me dire, dis-le-moi. Ton père s'est pendu. Et là, je fais « Ah, ok !» Ouais, c'est elle qui l'a découvert au réveil, en rentrant dans la chambre, en toquant, en se disant « Bon, je vais quand même aller lui dire coucou parce que j'ai pas de nouvelles depuis longtemps. » Il y pensait et que pour lui, c'était un facteur un peu inévitable. Le fait qu'il ait pensé, très peu de temps après être sorti du Bataclan, penser à mettre fin à ses jours. Et il disait souvent que c'est parce qu'il avait des enfants, une femme qui ne le faisait pas. C'était une fatalité d'au moins penser une fois à ça après avoir vécu ce genre de choses. Il ne m'a jamais explicité ses tentatives, mais il a déjà dit qu'il y pensait plus ou moins à des degrés forts. Personne ne se doutait jusqu'au dernier jour qu'il allait mettre fin à ses jours.
Dans l'épisode suivant, s'endormir, ne plus avoir peur, sortir, vivre à nouveau, c'est possible, mais ça met du temps et nous l'entendrons dans le prochain épisode. Merci à Léa Bertrand, Charlotte Lesage, Yannis Schwitter et Jean-Baptiste Perra pour la réalisation de cette série. Merci à Maxime, à Daniel et à Caroline pour leur témoignage. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode.